Nous allons accueillir Manuel Quinon, qui est doctorant à l'Université de Strasbourg. Sa thèse porte sur Gilbert Durand et les études sur l'imaginaire. Il m'a mis ça entre guillemets, parce qu'il sait qu'il est devant une assemblée d'éminents corbinistes et qu'il faut faire très très attention et marcher sur les œufs quand on parle d'imaginaire et d'imaginal. Donc, et les études sur l'imaginaire qui se rapportent à l'œuvre de Gilbert Durand sur le réseau académique fédéré par Durand à partir du début des années 60. Et il est vrai qu'il y a une... on peut parler à nouveau, hein, Gilbert Durand fait partie de cette grande famille intellectuelle qui a pensé autrement, finalement, nos savoirs et qui a essayé d'aller au-delà des formes visibles vers les archétypes. Et je pense que vous allez nous en dire plus, Manuel Quinon.
Alors, je remercie Daniel Gassandis et Pierre Loris pour m'avoir conduit à cette 7e journée sur Henri Corbin. Je vais donc vous parler d'Henri Corbin et de son contemporain Gilbert Durand, qui va me permettre de présenter et soumettre à la discussion une partie de mon travail de thèse en cours, qui porte sur l'œuvre de Gilbert Durand et sur la production et la réception de cette œuvre dans différents milieux. Alors, je ne vais pas ici même vous présenter Henri Corbin, mais quelques mots sur Gilbert Durand me paraissent par contre nécessaires. Gilbert Durand est un philosophe de formation et un sociologue de par son statut professionnel, connu pour ses travaux sur l'imaginaire. Il est né en 1921, il est donc de presque 20 ans plus jeune que Henri Corbin. Il est originaire de Savoie, de Chambéry, et il a réalisé toute sa carrière dans la région, partagée entre l'université de Grenoble et les annexes chambériennes de cette université. Gilbert Durand a suivi des études de philosophie à l'université de Grenoble, puis à la Sorbonne, études qui ont été interrompues par la Seconde Guerre mondiale et par une activité importante de Gilbert Durand dans la résistance en Savoie. Au cours de la seconde moitié des années 50, Gilbert Durand obtient le statut d'assistant en philosophie à l'Université de Grenoble et il poursuit simultanément à la Sorbonne une thèse sur les structures anthropologiques de l'imaginaire qu'il a commencé sous la direction de Gaston Bachelard. Il soutient cette thèse en 1960. La thèse sera publiée dans la foulée aux presses universitaires de France et est toujours publiée aujourd'hui. On en est 50 ans plus tard, à la 11e édition. Quelques années après sa soutenance, Gilbert Durand devient professeur d'université, titulaire d'une chaire de sociologie et d'anthropologie culturelle, créée à son intention à l'université de Grenoble en 1962. En 1966, Gilbert Durand crée un centre de recherche pour l'imaginaire, basé à Chambéry et rattaché à l'université de Grenoble. Ce centre de recherche interdisciplinaire va par la suite susciter la création de plusieurs dizaines de centres similaires, en France mais aussi à l'étranger. En 2002, on pouvait recenser par exemple 52 centres de recherche sur l'imaginaire, se rattachant explicitement dans leur programme de recherche au centre fondateur, fondé par Durand, et aux travaux de Gilbert Durand, aux travaux pionniers de Gilbert Durand sur l'imaginaire. Gilbert Durand est un universitaire qui a par ailleurs beaucoup produit, une quinzaine d'ouvrages, traduits en 11 langues, plus de 150 articles. Durand a été aussi largement commenté, puisque des colloques, des thèses et des monographies lui ont été consacrées. Il est parfois présenté dans des ouvrages de vulgarisation en sciences humaines comme un classique des sciences sociales. Point important à relever, Gilbert Durand a par ailleurs fait école, dans la mesure où il est parvenu à structurer, dès la seconde moitié des années 60, un réseau de chercheurs relevant de différentes disciplines universitaires, mais publiant dans des revues communes et participant à des séminaires et des colloques communs. Gilbert Durand a fait école, surtout dans la mesure où, au sein de ce réseau académique, la théorie et la méthode qu'il a mise en œuvre dans sa thèse de 1960 ont été très largement reprises, notamment en littérature comparée, où on trouve tout un courant qui se réfère à son œuvre, qui s'appelle la mythocritique. En ce qui concerne le réseau mis en place par Gilbert Durand au cours des années 60, 70 et 80, il me faut indiquer qu'il est toujours présent sur le plan national et international, comme en témoigne l'existence d'un bulletin qui fédère les différents centres de recherche sur l'imaginaire. On pourra enfin remarquer que certains des membres de ce réseau, qui sont souvent d'anciens thésards de Gilbert Durand, ont acquis une relative notoriété académique. Je pourrais citer les sociologues Michel Macédoli et Alain Pestin, aujourd'hui décédé Alain Pestin, les philosophes Jean-Jacques Guinan-Burger et Françoise Bonnardel, ici présentes, et ou encore Daniel Chauvin en littérature comparée, qui a co-dirigé récemment un dictionnaire de mythocritique. Un demi-siècle après la publication de sa thèse sur les structures anthropologiques de l'imaginaire, l'œuvre de Durand fait donc toujours figure de référence. À titre d'exemple, j'ai vu passer il y a quelques jours un appel à communication pour un prochain colloque international sur l'imaginaire dans l'œuvre de Julien Green. Eh bien, la seule référence théorique dans cet appel à communication était un extrait de la thèse de Gilbert Durand, qui est cité dès les premières phrases du résumé de l'appel à communication. Pour revenir maintenant au propos de cet exposé sur Durand et Corvin, Gilbert Durand et Henri Corvin vont se rencontrer au début des années 60 et vont immédiatement développer une très grande proximité intellectuelle, doublée d'une profonde amitié. Divers éléments témoignent de cette forte complicité, qui relève donc à la fois du plan intellectuel et universitaire, et de la relation humaine entre deux individus, une relation d'amitié. Un premier élément qu'on pourrait citer est le suivant. Durand et Corvin se sont rencontrés au cours de l'été 1963. Quelques mois plus tard, à peine, Henri Corvin propose à Gilbert Durand de venir faire une double conférence pour la prochaine session du cercle Eranos, en Suisse. Cercle Eranos, auquel ont participé entre autres Jung, Eliade, Scholem. Il faut noter que les conférenciers invités aux sessions annuelles étaient introduits par cooptation et faisaient l'objet d'un choix très sélectif. En invitant Gilbert Durand au cercle Eranos juste 3 mois après la première prise de contact, qui se résumait en fait à une rencontre à Paris et quelques lettres échangées, Henri Corvin a donc témoigné immédiatement d'un fort crédit et d'une forte confiance intellectuelle pour Gilbert Durand. De son côté, Gilbert Durand propose dès sa première lettre à Henri Corvin, le 7 juillet 1963, de participer à la création du Centre de recherche sur l'imaginaire, qui ne sera en fait créé que 3 ans plus tard, et propose immédiatement à Henri Corvin la présidence de ce centre. En quelques mois d'intervalle, Henri Corvin va devenir l'un des auteurs les plus cités dans les publications de Gilbert Durand, alors qu'il en était avant totalement absent. Henri Corvin, de son côté, a déposé beaucoup Durand dans ses publications, va en tout cas le mentionner comme l'un de ses principaux interlocuteurs et collaborateurs. Durand et Corvin vont par ailleurs entretenir pendant 15 ans une correspondance fournie, dans laquelle ils vont échanger sur le plan universitaire, mais aussi sur le plan personnel, et surtout sur un plan intermédiaire, qu'on pourrait qualifier de para-académique, et sur lequel je vais revenir par la suite. Autre indice de la proximité entre Henri Corvin et Gilbert Durand, une des grandes réalisations personnelles d'Henri Corvin a été l'Université Saint-Jean de Jérusalem, dont la première session s'est tenue en juillet 1974. Cette association, dans laquelle intervenaient pour l'essentiel des universitaires, mais qui était totalement indépendante de l'université publique, était, je cite la plaquette de présentation, un centre international de recherche spirituelle comparée. Eh bien, c'est à Gilbert Durand qu'Henri Corvin va confier la vice-présidence de ce centre de recherche, le président étant Henri Corvin lui-même. En juin 1979, lors de la première session de l'Université Saint-Jean de Jérusalem sans Henri Corvin, qui était décédé quelques mois plus tôt, c'est encore Gilbert Durand qui ouvrira le colloque par une allocution poignante devant les congressistes pour évoquer la mémoire d'Henri Corvin. Dernier indice parmi d'autres, après la mort d'Henri Corvin, Gilbert Durand va publier de nombreux articles élogieux sur Corvin, et dans certains de ses articles, mais aussi dans d'autres textes publiés, Durand va désigner Corvin comme, je cite, son éminent ou fidèle ami, mais surtout, je cite encore, comme son maître. L'occurrence du terme maître, à propos de Corvin, apparaît plus d'une dizaine de fois dans les écrits de Durand. En 2001, Gilbert Durand désignera même Corvin comme, je cite, le plus grand de tous ses maîtres. Alors, on pourrait voir maintenant une forme d'énigme dans l'intense collaboration intellectuelle et l'amitié qui vont lier Gilbert Durand et Henri Corvin pendant les 15 dernières années de la vie de Corvin. À l'appui de cette énigme, Henri Corvin a toujours fait preuve d'une grande suspicion vis-à-vis des sciences humaines et de ce qu'il appelle le sociologisme ou le psychologisme. Psychologisme que Corvin dit avoir, je cite, toujours combattu. Alors que Gilbert Durand, qui n'est lui pas du tout iranisant, enseigne de son côté la sociologie et les sciences humaines que Corvin ne manque pas de dévaloriser à l'occasion. Corvin critique par ailleurs de façon véhémente la notion d'imaginaire, à laquelle il préfère d'autres termes. Notion d'imaginaire qu'il trouve impropre, alors que c'est précisément cette notion qu'utilise Gilbert Durand dans ses premiers travaux. Corvin et Durand vont enfin être très éloignés sur le plan géographique. Au début des années 60, Corvin est partagé entre un trimestre à Téhéran et les deux autres trimestres à Paris, alors que Durand, de son côté, est retranché, entre guillemets, en Savoie. Ils n'auront ainsi pas l'occasion de se rencontrer physiquement de manière très régulière. Vu de l'extérieur, donc, on peut trouver quelque peu énigmatique la forte complicité qui va lier Corvin et Durand. Par ailleurs, au début des années 60, Gilbert Durand est un universitaire installé, entre guillemets. Sa thèse principale a été rééditée auprès de l'Université de France, sa thèse complémentaire a été éditée, une chaire de sociologie a été créée pour lui à l'Université de Grenoble, il est présent quasiment immédiatement au Comité national des universités de l'époque, il est invité à différents colloques et congrès, et il est déjà bien reconnu pour ses travaux sur l'imaginaire. Dans ce contexte, on peut donc être quelque peu étonné que Gilbert Durand, qui n'est plus ni un étudiant ni même un assistant, mais un professeur d'université, quadragénaire, on peut être étonné donc que Gilbert Durand désigne Henri Corvin comme son maître. Pour essayer maintenant d'éclairer cette énigme que l'on pourrait être tenté de voir dans l'amitié et la collaboration, éventuellement asymétrique entre Corbin et Durand, on pense bien entendu à un point commun, à un objet intellectuel commun, partagé par Corbin et Durand, malgré leurs diverses différences. Objet qui sera en quelque sorte le ciment de leur rapprochement initial et la raison de leur complicité intellectuelle. Cet objet, c'est le thème de l'imagination. Pour tester cette hypothèse, il me faut donc comparer la conception de l'imagination chez Durand et la conception de l'imagination chez Corbin, afin de voir si ces deux conceptions se recoupent et si on peut considérer l'objet intellectuel imaginaire ou imagination comme une raison possible parmi d'autres de la proximité tardive mais intense entre Durand et Corbin. Alors je vais commencer par la conception durandienne de l'imaginaire. La thèse de Durand sur les structures anthropologiques de l'imaginaire est une vaste et ambitieuse tentative de classification des mythes, des symboles, des cosmogonies produits par l'esprit humain. Le point de départ de cette classification, Durand le trouve dans des travaux de l'école russe de réflexologie, et notamment chez un auteur quelque peu oublié aujourd'hui, Vladimir Becherev, mort à la fin des années 20. Durand, s'inspirant donc des travaux de Becherev, postule que toute représentation mentale est, en dernière instance, réductible à ce qu'il appelle trois grands réflexes dominants. Il y a premièrement le réflexe que Durand appelle postural, qui consiste pour l'animal humain à se dresser. Il y a ensuite le réflexe digestif, qui consiste, lui, à incorporer une substance nutritive. Enfin, Durand distingue des deux précédents réflexes le réflexe sexuel, qui implique, lui, un mouvement rythmique, et pour lequel je ne vais pas vous faire de dessin. Chacun de ces trois réflexes dominants, qui sont posés comme innés et qui s'enracinent dans la physiologie et la biologie humaine, vont produire à leur tour ce que Durand va appeler des schèmes verbaux, c'est-à-dire des grandes catégories d'actions possibles. Par exemple, le réflexe postural, qui consiste à se mettre debout, va produire ce que Durand appelle le schème ascensionnel, qui consiste à monter, à s'élever. Ce même réflexe postural va aussi produire un autre schème, le schème que Durand appelle diérétique, qui consiste lui à couper et à séparer les éléments. Le schème, donc, pour Durand, fait par ailleurs figure d'intermédiaire entre le réflexe physiologique et la représentation mentale, qui elle implique des contenus mentaux et une substance sémantique. Les schèmes verbaux, qui sont produits par les trois grands réflexes de base, vont en effet eux-mêmes produire, à leur tour, ce que Durand va appeler des archétypes, c'est-à-dire des images mentales, invariables, universelles et transstructurelles. Durand donne l'exemple de l'archétype du sommet, de l'archétype du chef, ou encore de l'archétype du luminaire. Enfin, dernière étape dans la production de l'imaginaire, tel qu'il est conçu par Gilbert Durand en ce début des années 60, ces différents archétypes vont eux-mêmes produire différents symboles, symboles qui vont être des illustrations concrètes d'un archétype donné, qui vont s'incarner dans un objet. Parmi les symboles associés à l'archétype du sommet, par exemple, on trouvera, je cite encore Durand, le symbole du champion de saut, le symbole de l'échelle ou le symbole de l'avion supersonique. Dans les 500 pages qui constituent la thèse de Gilbert Durand sur les structures anthropologiques de l'imaginaire, on voit donc se déployer une sorte d'arbre de l'imaginaire. Vous avez tout d'abord un tronc, qui est l'homme, en général, Durand parle du homo sapiens. Ce tronc se divise en trois branches principales, qui sont les trois réflexes dominants. Chacun de ces réflexes vont encore se diviser en plusieurs branches, qui sont les schèmes verbaux, c'est-à-dire différents régimes d'action. Ces schèmes ou régimes d'action vont à leur tour se diviser en différents archétypes, autrement dit en des représentations universelles, transstructurelles et invariables. Et enfin, à l'extrémité de ces rameaux que sont les archétypes, on trouve une multitude de symboles associés qui sont comme les feuilles de l'arbre de l'imaginaire. Ces symboles seront pour Durand variables selon les groupes culturels, contrairement aux archétypes, aux schèmes et aux réflexes qui, eux, sont présentés par lui comme universels et invariables. Voilà de manière assez schématique la conception de l'imaginaire théorisée par Gilbert Durand dans sa thèse à l'époque où il va rencontrer Henri Corbin. Voyons maintenant la conception que se fait Corbin de l'imagination à la même époque, afin de vérifier l'hypothèse que j'indiquais avant. Pour cela, rien de tel évidemment que se plonger dans un ouvrage de Corbin, l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, ouvrage fondamental de Corbin paru en 58, soit juste 2 années avant la thèse de Durand. À la lecture de ce livre, on voit tout de suite que le propos de Corbin, relatif à l'imagination, est très différent de celui de Durand. Il ne s'agit en effet pas du tout de classer un ensemble proliférant de mythes et de symboles en fonction de certaines grandes catégories psychologiques ou biologiques, mais loin de ça, de rendre compte, de comprendre de l'intérieur, sur un mode phénoménologique, une expérience mystique et spirituelle, qui est celle d'Ibn Arabi, le grand philosophe et mystique soufi à cheval entre le 12e et le 13e siècle. Le robot de Corbin est donc de rendre compte au plus près de cette expérience spirituelle, telle qu'il n'a ravi la transmise à travers un certain nombre de textes, et de rendre compte de la notion d'imagination telle qu'il n'a ravi la mobilité. Corbin ne propose donc pas une synthèse personnelle et ambitieuse relative au concept d'imagination, comme c'est le cas dans la thèse de Durand, mais il se fait plutôt le passeur d'un système métaphysique qui le précède de 8 siècles. Cette première différence de fond étant posée en ce qui concerne les perspectives de Durand et de Corbin sur l'imagination, voyons maintenant quelle est la conception dont Corbin se fait le passeur. Corbin montre que chez Ibn Arabi, l'imagination, que Corbin qualifie d'active ou de créatrice, est considérée comme un organe de perception spécifique, distinct des 5 sens. Cet organe de perception permet aux mystiques qu'il possède d'accéder à un monde intermédiaire entre le monde sensible et matériel, terrestre, et le monde divin. Ce monde intermédiaire dans lequel Dieu se manifeste sous forme de théophanie, Corbin le nomme Mundus Imaginalis. C'est donc par son imagination créatrice que le mystique accède à ce monde intermédiaire, et cela, c'est important de le souligner, il y accède indépendamment de tout clergé et de toute église. Cet accès se réalise donc sur un mode que Corbin qualifie d'ésotérique, au sens où il implique pour le mystique une capacité de discernement des symboles et des images, ainsi qu'une connaissance salvatrice, partagée par une petite communauté d'individus, relative à la nature, à l'origine et au destin de l'homme. Cette connaissance ésotérique, non dogmatique, se transmet elle-même dans un processus initiatique qui permet de transmuter, je cite Corbin, les données des sens vers des significations divines. Dans le système décrit par Corbin, l'imagination créatrice est donc à la fois le moyen par lequel le mystique va accéder aux manifestations divines, aux théophanies, et cela sur un mode personnel et ésotérique, et inversement, l'imagination créatrice de ce même mystique va être le moyen par lequel Dieu lui-même va prendre conscience de sa propre création, qu'est le cosmos. L'imagination dans le système d'Ibn Arabi est dite créatrice, puisque Dieu est considéré avoir créé le monde précisément dans un acte d'imagination. Lorsque l'homme imagine à son tour de manière à se hisser aux manifestations divines, l'homme manifeste une essence commune avec Dieu et se rapproche de Dieu qui l'a créé. Pour reprendre l'image utilisée par Ibn Arabi et par Corbin, l'imagination créatrice du mystique va être le miroir par lequel Dieu va pouvoir se contempler et contempler sa création. Inversement, Dieu, qui est l'imagination créatrice absolue, va jouer pour le mystique le rôle de miroir, miroir dans lequel le mystique va prendre conscience de sa nature divine et de la nature du cosmos. À travers le système d'Ibn Arabi, Corbin décrit donc une cosmologie dans laquelle Dieu et le mystique sont dans une relation d'interdépendance fondamentale. L'un et l'autre sont nécessaires au maintien de la création et de l'ordre cosmique. Dernier point, la cosmologie d'Ibn Arabi que décrit Corbin implique un certain nombre de sphères concentriques, sphères intermédiaires entre le monde visible, terrestre, et le monde totalement invisible de la divinité, comme on le trouve d'ailleurs dans certaines cosmologies gnostiques ou néoplatoniciennes. Une de ces sphères, on l'a vu, est celle du Mundus Imaginalis. Mais il y en a d'autres. Corbin relève que dans le système d'Ibn Arabi, tout ce qui existe dans une région cosmique donnée dispose d'un équivalent dans une autre région. Et l'imagination créatrice est capable de sauter en quelque sorte d'un niveau cosmique à l'autre. Elle est capable de faire apparaître un élément qui existe dans une région donnée, dans une autre région où cet élément est absent. Autrement dit, l'imagination créatrice peut recréer des éléments absents dans le monde sensible, en jouant sur le système de correspondance qui caractérise le cosmos. On voit donc que l'imagination, telle que la conçoit Ibn Arabi, et telle que la présente Corbin, est définie comme une propriété ontologique commune de la divinité et du mystique. L'imagination est créatrice, puisque c'est par elle que Dieu, d'une part, crée le cosmos, et que le mystique, d'autre part, peut recréer dans le monde sensible, par exemple, des objets ou des êtres absents de ce monde, mais présents dans le monde imaginal. Si elle est créatrice, donc, l'imagination est par ailleurs gnostique. Elle relève d'une connaissance salvatrice. Dans la mesure où c'est par elle que Dieu va prendre conscience de sa création et que l'homme, de son côté, va aussi prendre conscience de sa nature divine et de la nature stratifiée du cosmos. Enfin, si l'imagination est créatrice et gnostique, elle est aussi sotériologique, investie d'un rôle salvateur, dans la mesure où elle contribue au maintien de l'ordre cosmique. Pour revenir maintenant à mon interrogation de départ, à savoir qu'est-ce qui permet de comprendre la complicité intellectuelle entre Gilbert Durand et Henri Corbin, et pour revenir à l'hypothèse que je proposais, à savoir considérer l'objet intellectuel imagination comme une forme de ciment interactionnel, eh bien il me semble, à ce niveau de mon exposé, que cette piste soit en fait une impasse. puisque le terme commun d'imagination renvoie en réalité à des démarches intellectuelles et à des objets très différents. Durand opère une vaste synthèse philosophique qui repose en dernière instance sur des facteurs biologiques, alors que Corbin, à milieu de l'ambition à la fois taxonomique et explicative de Durand, se fait simplement l'interprète d'un système philosophique particulier et ne semble pas, à première vue, avoir lui-même une conception personnelle de l'imagination. En bref, il semble que je n'ai pas vraiment avancé dans ma tentative d'explication de la complicité entre Corbin et Durand, vu l'abîme qui les sépare en termes de méthode et d'objet en ce qui concerne la thématique commune de l'imagination. Toutefois, ce constat d'incompatibilité d'objet et de méthode doit être tempéré par un certain nombre d'éléments curieux que l'on trouve dans les publications de Gilbert Durand. Dans les dernières pages des structures anthropologiques de l'imaginaire, Gilbert Durand met par exemple de côté sa perspective classificatrice et son modèle explicatif, et avance des propositions sur la fonction de l'imaginaire. Ces passages, qui sont des conjectures au départ, dénotent fortement par rapport à la méthode qui était suivie jusque-là. Durand attribue en effet à l'imagination, je cite, le pouvoir réellement métaphysique de dresser ses œuvres contre la pourriture de la mort et du destin. Et la thèse de Durand s'achève sur ces mots, pour le moins énigmatiques, l'imaginaire, bien loin d'être vaine passion, est action euthémique et transforme le monde selon l'homme de désir. Si on n'est pas familier de l'œuvre de Louis-Claude de Saint-Martin, philosophe français du XVIIIe siècle, on est quelque peu déconcerté. Surtout dans une conclusion qui est censée résumer la classification et l'explication, semble-t-il, matérialiste de l'imagination, que l'on trouve dans les 500 pages qui précèdent. On sera d'autant plus surpris si on lit maintenant un projet de préface inédit que Durand a rédigé pour sa thèse et qu'il n'a finalement pas retenu. Dans ce court texte inédit donc, Durand écrit, je cite, que « le minutieux et quelquefois fastidieux matérialisme de cette étude peut surprendre ». Or, ce matérialisme procède de la volonté, je cite encore Durand, de parler une fois pour toutes avec gravité d'un fait spirituel. Car en ce livre, le matérialisme n'est qu'apparent, il est fondamental vocation de montrer la réalité spirituelle au niveau de ses plus humbles incarnations. Dans cette immense nébuleuse imaginative qu'est la conscience humaine, la plus élémentaire, au simple niveau de l'obsession réflexe, se fait sentir l'appel spirituel. Fin de citation. On voit avec ces nouveaux éléments que Gilbert Durand semble attribuer, comme c'est le cas dans le système du monde d'Ibn Arabi, une fonction sotériologique à l'imagination, même si ça reste pour l'instant très flou. L'impression que donnent ces quelques extraits énigmatiques de Gilbert Durand est qu'il existe une sorte de masse manquante conceptuelle, c'est-à-dire une infrastructure théorique absente des écrits universitaires les plus connus de Gilbert Durand, mais qui pourtant sous-tend son édifice théorique public, sa production académique. Cette impression devient une confirmation si l'on se penche maintenant avec attention sur la bibliographie de Gilbert Durand. Un des tout premiers articles qu'il a publié avant 1960 et la publication de sa thèse a été un article paru en 1956 dans une revue confidentielle sur le comte savoisien Joseph de Maistre, c'est la philosophe contre-révolutionnaire et franc-maçon. Dans cet article, Gilbert Durand se montre bien au fait de la pensée ésotérique et franc-maçonne du XVIIIe siècle en France et indique que l'un des mérites de Joseph de Maistre est, je cite, de rétablir le pouvoir ontologique de la pensée intuitive et de faire de cette pensée intuitive, je cite encore, un organe de connaissance de l'absolu. On retrouve ici de manière inattendue la conception d'une imagination gnostique, telle que celle d'Ibn Arabi. En effet, la pensée intuitive, pour de Maistre et pour son commentateur Gilbert Durand, qui approuve de manière explicite dans le texte, c'est-à-dire l'imagination, est un organe de connaissance de réalité ontologique supérieure. L'article de Gilbert Durand sur de Maistre nous éclaire aussi sur l'éventuelle connexion conceptuelle entre la conception d'une imagination gnostique et la conception réflexologique que Durand défend dans sa thèse. Gilbert Durand écrit en effet que Joseph de Maistre a eu, je cite, l'intuition géniale de l'archétypologie, théorie des archétypes. Car de Maistre a découvert, je cite encore, avant la psychanalyse, l'existence de grands motifs archétypaux, de vastes plans de clivage intuitif, de chaînes d'action et de passions qui sont constitutives de la vérité. Dans l'article de Durand, la connexion entre les deux conceptions de l'imagination, la conception gnostique et la conception réflexologique, semble donc être la suivante. Parmi les archétypes, les mythes et les symboles qui composent l'imaginaire humain dans sa globalité, certains d'entre eux donnent accès à la vérité et renvoient à des réalités invisibles dans le monde matériel. Le dogme chrétien, écrit par exemple Durand en commentant de Maistre, Inouï de Saint-Martin, le dogme chrétien, donc, n'est que figure plus parfaite dans une suite de figures et d'institutions millénaires ayant pour but de révéler à l'homme l'étincelle divine qui sommeille en lui. Fin de citation. On voit dans cet extrait qu'une production donnée de l'imaginaire, en l'occurrence le dogme chrétien, est directement liée à l'imagination gnostique, considérée comme un organe de perception de réalité invisible. Et cela à travers la référence que fait Durand à l'étincelle divine qui sommeille en l'homme. Ce thème de l'étincelle divine, on le retrouve dans les doctrines gnostiques des premiers siècles de notre ère, et il désigne le fait qu'une certaine catégorie d'hommes, des pneumatiques, pour employer le terme, disposent en eux-mêmes, dans le monde terrestre, considéré comme foncièrement mauvais, une trace du monde divin. Le gnostique, ou le pneumatique, est celui qui va prendre conscience de sa nature divine, et qui va s'employer par le moyen d'une connaissance salvatrice, réservée à une élite, la gnose, à fuir le monde matériel pour réintégrer le monde divin, en passant par un certain nombre de stations cosmiques intermédiaires. Vous voyez là que le thème de l'étincelle divine, auquel fait référence Durand, et pour lequel il manifeste une sympathie évidente dans cet article, sur Demestre, que ce thème gnostique, donc, joue un rôle similaire à celui de l'imagination dans la cosmologie d'Ibn Arabi, telle qu'elle est décrite en tout cas par Henri Corbin. L'étincelle, comme l'imagination, sont à la fois des traces de la divinité dans l'homme, elles établissent une forme d'identité de nature entre Dieu et l'homme, et en même temps, l'étincelle et l'imagination constituent le moyen de salut, le moyen par lequel l'homme va regagner le monde divin. On voit donc que la théorie de l'imagination chez Gilbert Durand n'est pas aussi matérialiste, comme il le dit lui-même, qu'on pourrait penser à la lecture de sa thèse. L'imagination renvoie non seulement à des réflexes physiologiques, mais aussi à une dimension spirituelle. Pour reprendre le terme de Durand, voire à une dimension gnostique, comme son article sur Demestre et sa référence à l'étincelle divine en témoignent. À ce niveau de l'analyse, il est donc peut-être prématuré de congédier l'hypothèse que je faisais au début, selon laquelle l'objet intellectuel imagination peut permettre de comprendre la collaboration intense et la complicité intellectuelle qui vont lier de façon quelque peu inattendue, à première vue, l'anthropologue de l'imaginaire Gilbert Durand et le phénoménologue de l'imagination créatrice Henri Corbin. Si on lit maintenant avec attention certains articles de Gilbert Durand au début des années 60, on est confronté à un phénomène curieux. En juin 1962, Gilbert Durand fait une conférence lors d'un congrès de symbolisme. Je ne vais pas ici retracer l'histoire des congrès de symbolisme, qui ont été fondés, organisés et financés par un médecin suisse passionné de cabale au milieu des années 50, le docteur Maurice Engelson, mais disons juste que Durand avait en face de lui, en juin 62, Raymond Abellio, Carlos Suarez, René Allot, Jacques Zarès, de la revue Attentif. Autrement dit, une assemblée qui aurait accueilli à bras ouverts un exposé sur l'imagination gnostique. Au lieu de quoi, Durand fait une communication dans la veine matérialiste de sa thèse et dans laquelle il reprend la théorie réflexologique pour éclairer le mécanisme de l'imaginaire et du symbolisme. 5 mois plus tard, en novembre 62, Durand fait de nouveau une conférence pour les mêmes congrès symbolisme. Congrès dont l'organisation a entre-temps évolué, et dont les anciens piliers ésotériques, comme Raymond Abellio par exemple, ont été écartés. Et là, contre toute attente, Gilbert Durand fait un exposé où il n'y a plus la moindre trace de théorie réflexologique et du matériel ethnologique, qui était pourtant au fondement de sa thèse et son précédent exposé. Dans cette conférence de novembre 62, Durand pose que le symbolisme est, je cite, « une sorte de gnose, une connaissance béatifiante, une connaissance salvatrice ». Et Gilbert Durand esquissait, dans sa communication, une grande fresque historique dans laquelle il montre comment ce qu'il appelle l'imagination symbolique, mais pas que l'imagination gnostique, comme il l'admet de façon explicite dans son texte, c'est-à-dire la capacité individuelle à se hisser vers la transcendance divine, comment cette imagination symbolique, donc, va être en Occident progressivement marginalisée par les systèmes philosophiques dominants, averroïsme au XIIIe siècle, cartésianisme au XVIIIe siècle, et marginalisée par l'Église, nous allons Durand, va monopoliser l'accès à la transcendance à travers la constitution d'un corps de spécialistes autorisés et d'un dogme qui va poser cette relation personnelle à la transcendance comme une hérésie à combattre. En l'espace de quelques mois, donc, Gilbert Durand va changer de fond en comble sa présentation publique de l'imagination, ce qui n'implique pas que sa représentation privée, elle, est réellement changée. Il va passer d'une conception affichée comme matérialiste et réflexologique à une conception gnostique de ce qu'il va appeler l'imagination symbolique. Alors question, qu'est-ce qui a bien pu se passer en l'espace de 5 mois entre juin et novembre 62? Non. 62 non. Eh bien, vous vous en doutez, Gilbert Durand a rencontré la pensée d'Henri Corbin et a lu l'imagination créatrice dans le sophisme d'Ibn Arabi, ouvrage que Durand va citer à plusieurs reprises dans sa conférence de novembre 62. La découverte de la pensée d'Ibn Arabi via l'ouvrage de Corbin, et plus globalement la découverte de la pensée mystique et ésotériste contexte de l'islam iranien, via les études et les traductions d'Henri Corbin, va infléchir de façon radicale les préoccupations intellectuelles de Gilbert Durand. Gilbert Durand ne va pas non plus renier sa thèse et les nombreux travaux qui en découlent, que ce soit de lui ou d'autres, mais c'est comme si la découverte des ouvrages de Corbin allait catalyser chez lui une pensée implicite, une infrastructure conceptuelle latente dans laquelle la conception d'une imagination gnostique joue un rôle de première importance. Quand on lit maintenant les lettres que Durand adresse à Corbin, ce tournant intellectuel est tout à fait évident. Dans sa toute première lettre à Corbin, Durand écrit, je cite, qu'il s'aperçoit de plus en plus combien tous ces auteurs iraniens confirment et élargissent ses propres recherches sur l'imaginaire. Si on regarde maintenant du côté des notices que Durand a pu rédiger sur Henri Corbin, l'aspect catalyseur de l'œuvre de Corbin devient tout à fait explicite. Voilà ce qu'écrit par exemple Durand en 2003 dans un ouvrage collectif sur la franc-maçonnerie française. Je cite Durand. À travers l'énorme érudition du maître, majuscule à un maître, il s'agit de Corbin, soudain, je découvrais un monde, celui de Mollah Sadra, de Sohrawardi, d'Ibn Arabi, monde d'une brillante et constante spiritualité, mais monde ayant superbement ignoré le christianisme. La voie que j'ai suivie, d'une spiritualité orientale, souvent, m'a permis de donner la place qui convient, la première, à l'imaginaire. Tandis que pour nous, occidentaux, la nécessité d'un Dieu personnel était exigée pour tout accès à la vérité, pour l'Orient, il existe en chaque homme un pouvoir imaginal d'accès aux vérités. Et chaque initiation donne le moyen à chacun d'accéder à ce domaine protégé de la vérité. Fin de citation. On voit bien à travers cette notice où Durand cherche à identifier, je cite, le plus petit diviseur commun propre à son cheminement spirituel et à sa carrière. On voit bien donc que la rencontre et l'œuvre de Corbin a été décisive pour Durand et qu'elle lui a permis d'objectiver, de catalyser une conception gnostique de l'imagination qui sous-tendait jusque-là ses écrits de manière relativement implicite. Grâce à l'œuvre médiatrice de Corbin, Durand a pu s'approprier, il a pu intégrer dans son propre système du monde, une anthropologie métaphysique, une théorie de l'homme, de son origine divine et de sa capacité à accéder, sans la médiation d'un clergé, à des niveaux cosmiques supérieurs. De manière très claire dans ce texte, Durand se réapproprie donc une partie spécifique de la cosmologie d'Ibn Arabi, la partie anthropologique relative à la constitution de l'homme. Mais on peut se demander, Durand, si cette anthropologie métaphysique de l'imagination créatrice qui se réapproprie n'est pas elle-même insérée dans un système plus vaste, dans une vision globale de l'homme et du monde, qu'aurait Durand. Chez Ibn Arabi, la théorie de l'imagination créatrice ne prend par exemple sens que dans un système structuré de croyances, système où on trouve en même temps une théorie de la chose divine, où l'on trouve une anthropologie métaphysique, donc la théorie de l'homme et de l'imagination, où l'on trouve encore une théorie de la nature et de la constitution du cosmos, cosmos qui est conçu comme stratifié, comme celui d'ici, et qui dispose par ailleurs d'un système de correspondance entre les différents niveaux ontologiques, comme on trouve d'ailleurs dans la littérature hermétiste de la fin de l'Antiquité. Et chez Ibn Arabi, on trouve enfin une forme de sociologie métaphysique, au sens où Ibn Arabi distingue, comme les gnostiques, trois catégories d'individus, en fonction de leur capacité à pénétrer les mystères divins. Il y a le mystique, celui qui dispose de l'organe spirituel, qui est l'imagination créatrice. Il y a par ailleurs le théologien scolastique, qui lui va rationaliser les dogmes, et il y a enfin le simple croyant. Qu'en est-il chez Gilbert Durand? L'imagination créatrice est-elle intégrée dans un véritable système du monde? Pour répondre à cette question, il faut tourner vers des publications postérieures de Durand, et notamment vers un ouvrage, Science de l'homme et tradition. Science de l'homme et tradition. Ce livre est paru en 1975 et regroupe divers exposés faits par Durand au Cercle Eranos, à l'Université de Saint-Jean de Jérusalem et dans d'autres lieux. Ce livre est intéressant pour mon propos parce que dans chacun des articles qui le compose, Gilbert Durand va exposer une partie de son système, en axant son propos soit sur la nature de l'homme, soit sur la nature de la société, soit sur la nature de la nature, et que l'on a au final, en refermant cet ouvrage, un exposé assez précis du système du monde de Gilbert Durand. Que noter par ailleurs, ce système du monde, on le retrouvera dans un certain nombre de publications antérieures et postérieures. Ça n'incarne pas uniquement dans cet ouvrage. Il faut encore souligner que ces articles de Gilbert Durand sont très normatifs. Durand prend position de manière tout à fait explicite à travers une foule d'adjectifs, ce qui fait qu'il est assez simple de faire la part des choses entre ses engagements et adhésions personnelles et des éléments auxquels il n'adhère pas. De manière concrète, pour établir le système du monde de Gilbert Durand, j'ai pris une feuille de papier, et tout en lisant attentivement Science de l'homme et tradition, j'ai relevé tous les passages où Durand s'engage, à titre personnel, tous les moments où il exprime ses propres convictions sur la nature fondamentale des choses, sur les entités qui existent dans son esprit. Alors, quels sont donc ces domaines de réalité que Gilbert Durand considère comme existants? On trouve tout d'abord, dans les études de Gilbert Durand, une théorie de Dieu, théorie qui est relativement succincte, mais qui existe. Durand parle, je cite, d'un être principiel, d'un principe absolu, ou même d'un Dieu, qui est à l'origine de l'ensemble des existants qui peuplent le cosmos. Durand parle fréquemment, en ce sens, du principe d'unité de la création. Pour Gilbert Durand, tous les existants du cosmos, dont l'homme fait partie, conservent en eux une trace, une signature de leur origine divine. Comme écrit Durand, c'est un état général, que je cite, c'est un état général de la création à un moment donné qui signe l'événement humain en même temps que l'événement cosmique. Donc là, une théorie des signatures qu'on trouve par ailleurs dans l'hermétisme de la Renaissance. Durand pose ainsi une forme de continuum ontologique entre la divinité, la nature et l'homme. Je cite Durand, la science hermétique est notre science de l'homme pense qu'il n'y a bien qu'un ordre de l'étang, qu'un cosmos dont microcosme et macrocosme ne sont que des points de vue. Dans cet extrait, Durand solidarise son anthropologie universitaire, sa théorie académique, avec ce qu'il appelle la tradition, c'est-à-dire la tradition ésotérique, la science hermétique. On trouve par ailleurs chez Durand, et on l'a déjà vu, une théorie de l'homme, une anthropologie métaphysique, qui dérive de ce principe d'unité de la création. En effet, chez l'homme, cette trace de la divinité est conservée dans un organe intermédiaire invisible, durant des par différents termes, qui recoupe globalement la même entité. On parle d'âme, d'intellect agent, de cœur, de Saint-Esprit, parfois de corps astral. Ce corps, cette âme, est située entre le corps matériel et l'esprit résonant. La faculté essentielle de ce corps intermédiaire est l'imagination. Cet organe intermédiaire permet à l'homme d'accéder à un monde intermédiaire entre le monde terrestre matériel et le monde céleste spirituel. Il s'agit du monde imaginal. Depuis ce monde intermédiaire et par le moyen de son corps intermédiaire, l'homme, tel que l'explique Durand, est en relation avec les autres existants signés par la divinité au moment de la création. Il y a ainsi, comme le souligne Gilbert Durand, un système de correspondance entre les différents types d'existants, ce qui rend possible les pratiques divinatoires, pratiques sur lesquelles Durand a écrit plusieurs articles en dehors des articles qui sont aux sciences de la tradition, pratiques que Gilbert Durand considère comme légitimes, car fondées sur une propriété essentielle du monde. Parallèlement à des propositions sur ce qui constitue la nature de la création et de l'homme, Gilbert Durand s'exprime aussi sur la nature de la nature, sur les propriétés essentielles du monde physique. Le temps et l'espace, loin d'être continus et homogènes, sont constitués, pour Durand, de manière à favoriser, je cite, une correspondance entre les existants. L'espace est formé, je cite encore, de canaux, d'îlots, de noyaux qui guident ou concentrent le corps astral sur certains lieux. Le temps, quant à lui, est constitué, je cite, de noyaux significatifs qui rendent synchrone des événements distincts. Enfin, dernière catégorie d'existants sur lequel Gilbert Durand exprime ses convictions personnelles, la société. Alors je cite directement Gilbert Durand. Durand écrit « Toute institution exotérique se subordonne à un groupe intérieur faisant profession de spiritualité, composé de véritables veilleurs par qui le repos, la paix du monde, des hommes et de la société est permis. » Fin de citation. Ainsi pour Durand, toute société est hiérarchisée et globalement tripartite. Le pouvoir profane, politique et militaire d'un côté, ainsi que le pouvoir ecclésiastique et sacré de l'autre, pouvoirs qui sont tous deux exotériques, doivent être subordonnés à un troisième pouvoir intermédiaire que Durand nomme, je cite, hiérarchie ésotérique, ou encore parfois chevalerie spirituelle. Ce groupe composé, je cite Durand, de veilleurs, est, je cite toujours, en relation directe avec la divinité, dans la mesure où ce groupe ésotérique détient, je cite Durand, une gnose, une connaissance salvatrice qui porte sur la nature, l'origine et le destin de l'homme. Cette conception qu'a Durand d'une organisation sociale tripartite, dominée par un groupe ésotérique, dérive elle-même de ce qu'il considère être les propriétés ontologiques de la gnose. Cette gnose, je cite Durand, a tendance à se perdre inexorablement. Elle est, je cite, dérivée, substituée, occultée, dès lors qu'elle est interprétée à un niveau exotérique. C'est donc en toute logique qu'à un groupe ésotérique que revient la tâche de retrouver, de conserver et d'interpréter les vérités salvatrices nécessaires à la bonne marche du monde. Voilà donc le socle ontologique du système du monde de Gilbert Durand, système qui émerge par la récurrence de certains énoncés où Gilbert Durand exprime ses convictions intimes sur la nature du monde. Ce socle ontologique comprend à la fois une théologie, une forme de physique, qui est une physique métaphysique paradoxalement, une anthropologie métaphysique et une métaphysique sociale. Mais Durand, dans les articles qui composent l'ouvrage Chance de la tradition, et dans bien d'autres écrits aussi, va historiciser cette ontologie. Parmi les quatre existants fondamentaux que reconnaît Durand, certains vont en effet perdre, au cours de l'histoire, leurs propriétés essentielles, et acquérir des propriétés accidentelles que Durand va considérer comme foncièrement mauvaises. Alors, ces existants accidentés, entre guillemets, vont être non pas évidemment Dieu ni la nature, mais l'homme et la société. Pour Durand, à la fin du XIIe siècle, va advenir, je cite, une véritable catastrophe métaphysique en Occident. À travers le succès de l'héroïsme dans le monde latin, la théologie officielle va substituer à la conception traditionnelle tripartite de l'homme, esprit, âme, corps, une conception binaire, esprit, corps. De l'éviction dogmatique, parce que Durand appelle un cléricalisme sociologique, l'Église, de l'éviction donc du corps intermédiaire, qui permet à tout individu, je cite Durand, l'accès direct à la transcendance, va s'en suivre la séparation effective de l'homme avec la divinité et avec le cosmos. Ce cléricalisme sociologique, comme l'appelle Durand, c'est-à-dire l'Église, va désormais monopoliser le rapport au sacré et à la divinité. Et l'homme va être, je cite Durand, défiguré. Il va chuter dans la matérialité et, je cite, se détourner de la transcendance. L'homme va être, comme dit Durand, aliéné, mutilé, séparé. La dimension sotériologique, la théorie du salut dans la vision du monde de Gilbert Durand, en ce qui concerne l'homme pris de manière individuelle, va alors consister, pour ce dernier, à se remémorer son essence divine et tripartite. Et cela à partir de l'étude des diverses traditions ésotériques. Le gnosticisme, l'hermétisme, la théosophie, la franc-maçonnerie spéculative. L'anthropologie, entendue, elle, comme discipline universitaire, académique, a elle-même pour Durand une fonction sotériologique, puisque c'est par l'étude anthropologique des symbolismes que l'on peut retrouver, je cite Durand, la parole perdue, c'est-à-dire la gnose. Il faut donc étudier les mythes, les symboles, puisque c'est par le symbolisme, écrit Durand, que je cite encore, que s'opère la gnose illuminative, la grande connaissance de l'ordre, qui donne le pourquoi de toute la création et de toute créature. En ce qui concerne maintenant la société, le deuxième existant accidenté que je mentionnais, sa défiguration va être associée par Gilbert Durand au XVIIIe siècle et aux aspirations laïques et démocratiques de cette période. En commentant Joseph de Maistre, Durand va peindre la Révolution française comme, je cite, un univers apocalyptique où la spiritualité de 15 siècles s'évapore dans le sable des institutions exotériques. Comme pour l'homme accidenté, le salut, pour Durand, passe par le rétablissement des propriétés ontologiques. En ce qui concerne la société, Gilbert Durand préconise donc de revenir, je cite, à une politique traditionnelle, c'est-à-dire une politique qui tienne compte de l'essence tripartite et hiérarchique de toute société. Il faut pour Durand revenir, je cite, au principe de hiérarchie ésotérique, principe sur lequel, je cite toujours Durand, peut s'appuyer une science sociale à la fois politique et sociologique, surtout avec la transcription épistémologique qu'elle donne des quantifications démocratiques. À côté du salut individuel, par la gnose, on a donc, dans la cosmologie de Gilbert Durand, une théorie du salut collectif, qui passe par l'instauration d'une société hiérarchisée, dirigée par un groupe ésotérique de veilleurs, qui détiennent la gnose et qui rendent possible, je cite Durand, la paix du monde, de la société et des hommes. Alors il me semble maintenant avoir répondu à mon interrogation de départ, le thème de l'imagination, dans son acception gnostique, a bien constitué le ferment, le ciment de la complicité intellectuelle entre Durand et Corbin, comme le souligne Durand lui-même, de manière explicite, dans sa notice de 2003 sur Corbin. À travers l'œuvre de Corbin, Durand s'est approprié non seulement l'anthropologie métaphysique d'Ibn Arabi, avec la conception d'une imagination qui est à la fois créatrice, gnostique et sociologique, mais Durand s'est approprié aussi la conception hermétique d'un cosmos traversé par un réseau de correspondances. Il s'est approprié encore la conception d'un savoir salvateur ésotérique, réservé à une élite, la gnose. Et enfin, Durand s'est approprié la conception, là encore hermétique, d'un continuum ontologique entre la divinité et le mystique. Il reste toutefois un élément mystérieux. Si Durand est bien redevable à Corbin de lui avoir fait connaître un système métaphysique, on comprend toujours pas pourquoi Durand désigne Corbin de manière récurrente comme son maître, avec majuscule. Corbin n'est après tout qu'un passeur, un guide dans l'univers de la mystique et de l'ésotérisme soufis. En toute logique, c'est Ibn Arabi, et non pas Corbin, que Durand devrait désigner comme son maître. Ce qui fait que l'usage cosmologique que Durand fait de Corbin n'explique pas à lui seul mon énigme de départ. Sauf si on fait l'hypothèse que Corbin adhère lui-même à la cosmologie d'Ibn Arabi. Si Corbin traduit, commente et édite une mystique de l'islam chiite, c'est peut-être parce qu'ils partagent leur conception sur la nature de l'homme, sur la divinité et sur le cosmos. Autrement dit, si la vision du monde de Corbin recoupe la cosmologie d'Ibn Arabi, et si Corbin se fait le passeur d'Ibn Arabi parce qu'il considère que la réalité du monde est correctement décrite dans le système d'Ibn Arabi, alors oui, on comprend pourquoi Durand désigne Corbin comme son maître. Plusieurs types décrits dans Henri Corbin tendent à confirmer cette dernière hypothèse, selon laquelle Corbin adhère, à titre personnel, au système du monde d'Ibn Arabi. Si l'on considère tout d'abord les publications les plus connues de Corbin, à commencer par l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, on trouve un très grand nombre de jugements de valeur. C'est assez frappant. Le thème de la catastrophe métaphysique, que vous mentionnez tout à l'heure, Gilbert Durand le reprend tel quel d'Henri Corbin. Dans l'introduction de son ouvrage sur Ibn Arabi, Corbin parle en effet de catastrophe métaphysique, ou encore, je cite, des graves conséquences qui vont résulter de l'effacement progressif au XIIe et XIIIe siècle d'une cosmologie néo-platonicienne, telle que celle d'Avicenne. Dans la cosmologie d'Avicenne, relève Corbin, je cite, l'individu humain est rattaché directement au plérôme céleste, c'est-à-dire au monde divin. Sans avoir besoin pour cela d'un magistère ou d'une réalité ecclésiale. Et Corbin de regretter, de façon explicite, l'effacement historique de cette cosmologie, puisqu'il parle à ce propos, je cite, d'une catastrophe, d'un événement grave, d'une perte. Les termes de Corbin. Ce moment pivot où l'Occident va basculer, où il va refuser la cosmologie avicennienne au profit de l'abéroïsme, ce moment va donc marquer, je cite encore Corbin, le point de départ de la laïcisation et de la socialisation. Corbin continue en disant « Énoncer que la laïcisation commence avec l'élimination de la gnose, c'est viser le phénomène de désécration essentielle, une déchéance métaphysique du sacré. » Fin de citation. Comme vous le voyez, Corbin emploie des termes extrêmement forts, qui dénotent non seulement un jugement de valeur, mais plus profondément un engagement ontologique, une conviction sur la nature des choses. Il est clair que la préférence de Corbin va vers la cosmologie néoplatonicienne d'Avicenne et la cosmologie d'agnostique d'Ibn Arabi. Le fait que l'Église latine va refuser aux individus une relation directe et personnelle avec la divinité et avec un cosmos conçu comme feuilleté, Corbin va considérer cela comme, je cite, une aliénation inéluctable. L'ouvrage de Corbin sur Ibn Arabi est ainsi parsemé de jugements de valeur qui sont péjoratifs lorsque Corbin parle de l'Occident chrétien et de ce qu'il appelle le monothéisme unilatéral et qui sont à l'inverse laudatifs lorsque Corbin oppose à ce monothéisme au nominalisme et à l'agnosticisme, la cosmologie d'Ibn Arabi, qui inclut au contraire la conception d'une gnose ésotérique, d'une imagination gnostique et d'un univers peuplé de correspondances. Si l'on considère maintenant certains textes inédits, déposés entre autres au fond Corbin, à l'EPHE, que Corbin a rédigé dans la première moitié des années 70, dans le cadre de ses activités ésotériques au sein de l'ordre Saint-Jean de Jérusalem et au sein de sa loge maçonnique, les jugements de valeur qui parsemaient les écrits publics de Corbin deviennent des affirmations explicites. On trouve en effet des professions de foi de Corbin relatives à la nature du monde, mais aussi des théories relatives à l'apparition de propriétés accidentelles chez l'homme et la société, ainsi que des propositions sotériologiques afin de restituer à deux de ces existants accidentés leurs propriétés ontologiques initiales. Il nous faut souligner que ces quelques textes que j'ai cités par la suite reprennent des exposés, des planches que Corbin a réalisées pour des petits groupes de travail ésotériques, groupes que Corbin a constitués avec d'autres, des collègues universitaires entre autres, et notamment Gilbert Durand. Dans ces textes, Corbin expose donc sa propre vision du monde, sans la censure qu'implique une publication, et à plus forte raison une publication académique. Corbin expose sa vision du monde en l'ancrant autour d'un concept, celui de chevalerie spirituelle. Il faut bien garder en tête que lorsque Corbin parle de chevalerie spirituelle dans cette petite planche, il parle en même temps de lui-même, de Gilbert Durand et des quelques compagnons qui l'entourent, puisque ces planches, il les fait soit dans un groupe ésotérique qu'il a constitué au sein même d'un ordre de chevalerie, l'ordre Saint-Jean de Jérusalem, dans lequel Corbin a été reçu en tant que chevalier de grâce en septembre 68, soit est exposé, il est fait dans une loge, la loge maçonnique qu'il a créée avec quelques autres au sein de l'obédience Opéra. Cette loge se réunissait dans un lieu qu'on appelle un temple, et lorsque ce temple a été inauguré, Corbin a fait une planche qu'il a intitulée, dans un premier temps, pour la consécration du temple des chevaliers du temple de Saint-Jean. Les chevaliers en question, c'est bien entendu ceux qui font partie de cette loge, c'est donc Corbin et ses compagnons. Alors que dit Corbin dans ses exposés sur le rôle du chevalier spirituel, rôle qu'il considère incarné de fait. Corbin écrit, je cite, que la tâche de la chevalerie spirituelle est essentiellement la recouvrance, la reconquête d'une image divine qui avait été le partage de l'homme avant son exil ou sa chute en ce monde. Fin de citation. Corbin ajoute que cette reconquête de l'image divine, perdue lors de l'entrée de l'homme en ce monde, est, je cite, le but du christianisme ésotérique et l'objet principal de l'initiation maçonnique. Le chevalier spirituel a, écrit Corbin, ici, le devoir de reconduire sa propre âme à l'état original de pureté et de lumière telle qu'elle lui fut confiée dès avant même sa venue en ce monde, dès avant donc son enténèbrement par la venue même en ce monde. On voit là que Corbin fait complètement sien le schéma gnostique de la chute de l'homme dans la matérialité et qu'il fait sienne la voie de salut, gnostique là aussi, par laquelle l'homme va se remémorer son essence et remonter vers la divinité. On retrouve le thème de l'étincelle divine et de l'imagination gnostique qu'on trouvait chez Ibn Arabi. Corbin fait aussi sienne la théologie d'Ibn Arabi lorsqu'il écrit, sans citer toutefois Ibn Arabi, donc il a incorporé cette conception, lorsqu'il écrit, je cite, que le Dieu inconnaissable ne devient le Dieu connaissable que dans ses théophanies, c'est-à-dire dans la mesure où il se révèle personnellement à l'homme dans une image correspondant à la capacité spirituelle de celui-ci. De même que dans le système d'Ibn Arabi, Corbin pose par ailleurs un rapport de dépendance fondamentale entre le gnostique et Dieu. Et c'est là où on comprend vraiment le sens que donne Corbin en termes de chevalerie spirituelle. Le chevalier spirituel, écrit Corbin, que je cite, veille à ce qu'il y ait toujours des yeux par lesquels Dieu regarde encore ce monde et par lesquels le monde des hommes regarde encore Dieu. Corbin ajoute qu'une conviction commune à tous les chevaliers du temple de l'Orient et de l'Occident doit être que si ses yeux se fermaient, le monde de l'homme ne pourrait plus persévérer dans l'être. Ainsi écrit Corbin, le rôle fondamental du chevalier spirituel est, je cite, d'opérer un salut cosmique. Salut, ajoute Corbin, qui dépasse infiniment toute espèce de service social. Lorsque les chevaliers spirituels s'associent pour réaliser ce salut cosmique, écrit encore Corbin, ils forment, je cite, une communauté mystique, celle des veilleurs, des égrégoroles, veilleurs, qui souligne Corbin, que je cite encore, doivent rester incognito. Personne dans le monde officiel des hommes n'a connaissance de ce qu'ils sont. Comment maintenant les chevaliers spirituels, que sont Corbin, Durand et les quelques autres qui partagent leur activité ésotérique au sein de l'ordre de chevalerie de Saint-Jean de Jérusalem, ou bien au sein du temple des chevaliers du temple de Saint-Jean, pour reprendre le nom de l'horloge, comment ces chevaliers donc entendent-ils contribuer de manière concrète à ce salut cosmique qui dépasse infiniment ce service social, pour reprendre l'expression de Corbin? Vous vous rappelez que dans le système d'Ibn Arabi, que fait sien Corbin, le Dieu inconnaissable se manifeste à l'homme par des théophanies, par des symboles. Pour que l'homme puisse comprendre que Dieu s'adresse à lui, et qu'il puisse rentrer l'un et l'autre dans un rapport chevaleresque, dans un rapport de suzeraineté, afin que le monde puisse subsister dans son être, il faut que l'individu dispose d'une capacité à discerner un sens caché. Et c'est là où intervient la question de l'ésotérisme, que Corbin définit, je cite, comme le sens intérieur caché sous l'apparence, comme une herméneutique des symboles, ou encore, je cite encore Corbin, comme une compréhension spirituelle intérieure. Cet ésotérisme, cette compréhension spirituelle intérieure, ajoute Corbin, que je cite, doit échapper à toute caricature temporelle et ne peut être indifféremment proposée à la masse des croyants. Voilà ce que dit Corbin. C'est donc en raison de ce salut cosmique auquel doivent contribuer les chevaliers spirituels que Corbin considère, je cite, qu'il est urgent de redécouvrir les différentes traditions ésotériques. C'est en effet par l'étude de ces traditions que les chevaliers spirituels vont développer leur faculté à discerner un sens caché, et donc à comprendre les théophanies, et donc à rentrer dans un rapport de suzeraineté avec Dieu, et donc de contribuer au salut cosmique. Corbin entend personnellement réaliser cette tâche, comme il l'écrit de manière explicite. Je cite Corbin.
Non, time over.
Je suis donc Corbin, qui entend personnellement réaliser cette tâche de salut cosmique. Corbin écrit : c'est à notre ordre, maçonnique, quinconque de répondre à cette urgence. C'est à nous, les ésotéristes, de redécouvrir ce trésor qui ne peut être la proie des philosophes et des historiens politiques. Il y a urgence, écrit encore Corbin, à opérer au sein de notre ordre la reconstruction de toute une culture traditionnelle dévastée et défigurée depuis plusieurs siècles par les puissances de négation et de mort. Cette reconstruction de la tradition ésotérique doit pouvoir être capable de contrer, je cite encore Corbin, la catastrophe spirituelle dont la menace grandit depuis plusieurs siècles en Occident et qui se manifeste, je cite, par la généralisation de l'agnosticisme et par l'envahissement des sciences sociales. Cette tâche de salut collectif, Henri Corbin considère qu'elle doit être réalisée dans un lieu spécifique qu'il appelle le temple, qui en l'occurrence est maçonnique. Le temple, écrit Corbin, est le lieu de la présence divine. Les chevaliers qui habitent ce temple, le site Corbin, s'emploient à rappeler cette présence à une époque où nous faisons face à la réalité dramatique d'un monde où la présence divine est exilée. D'un monde où plus rien n'est à sa place. L'urgence de nos jours, poursuit Corbin, ce sont les maladies de l'âme. Nous ne disons pas les maladies psychiques, mais les maladies spirituelles. Par la débâcle d'institutions séculaires, un grand nombre d'âmes sont jetées dans le désarroi et désespèrent de trouver une arche de salut. Cette arche de salut ne peut être que le temple spirituel. La mission actuelle du temple spirituel, écrit Corbin, est d'opérer la rejonction entre la science profane et les sciences traditionnelles sacrées. Car en effet, ainsi que celui de Corbin, la science occidentale, échappant au contrôle métaphysique des sciences traditionnelles, risque de faire basculer l'humanité dans l'abîme. Il faudra donc opérer cette rejonction, précise enfin Corbin, tout en observant une discipline de l'arcane nécessaire pour que le dépôt qui nous est confié échappe aux improvisations plus ou moins farfelues. Je termine. On voit donc à travers tous ces extraits où Henri Corbin exprime ses convictions sur la nature du monde, on voit qu'il adhère foncièrement à la cosmologie d'Ibn Arabi, à la conception d'un dieu inconnaissable qui se manifeste à l'homme par des théophanies. Conséquemment, Corbin adhère à la conception d'un homme qui doit développer ses capacités à comprendre un sens caché, un sens ésotérique, afin de pouvoir établir un rapport avec Dieu. Corbin, par ailleurs, adhère à la conception d'une imagination gnostique qui permet à l'homme de rentrer en correspondance non seulement avec les manifestations de la divinité, mais encore avec les différents niveaux ontologiques qui constituent le cosmos. Et Corbin, enfin, fait sienne la conception d'un double salut, salut qui est à la fois individuel et qui est cosmique. Corbin va par ailleurs décrire un processus historique où ces deux voies de salut vont être enrayées par divers éléments, par des systèmes dogmatiques qui récusent la capacité personnelle de l'homme à correspondre directement avec le cosmos et la divinité. Et enfin, Corbin va proposer des solutions pour rétablir ces deux voies de salut dans le monde contemporain. Pour conclure et pour revenir sur mon interrogation de départ, Corbin va donc transmettre à Gilbert Durand à la fois la cosmologie d'Ibn Arabi, cosmologie à laquelle adhère Corbin lui-même et qui inclut parmi d'autres éléments la conception de l'imagination gnostique, mais Corbin va aussi transmettre à Gilbert Durand une théorie des causes du mal propre au monde moderne à travers la thèse de la catastrophe métaphysique, ainsi qu'une théorie pour sortir de ce mal à travers l'injonction à se réapproprier les trésors des différentes traditions ésotériques. Corbin va donc initier Gilbert Durand à une certaine interprétation du monde, à une interprétation des causes du mal et des moyens de sortie hors du mal. Et Corbin peut donc être, pour cette raison, considéré de manière légitime par Durand comme son maître. Malgré leurs différences apparentes, on comprend maintenant la complicité intellectuelle entre Durand et Corbin, complicité qui repose sur des affinités cosmologiques profondes et qui font que Durand, Corbin et Ibn Arabi lui-même sont sans aucun doute des contemporains.
Hélas, la méta-histoire, nous ne la lirons pas, et le temps passe. Donc, merci pour votre intervention, mais pas merci d'avoir été trop éventuellement cet après-midi. Mais là, on n'a pas le temps, donc.